Chapitre 17. Clamerant avait dit à Raoul, « Surtout, soigne-toi l'entrée, ton aspect seul doit tout dire et éviter des explications impossibles. » La recommandation était inutile. Raoul, en entrant dans le petit salon, était si pâle et si défait, ses yeux avaient une telle expression d'égarement, qu'en apercevant Madame Fauvel ne put retenir un cri. « Mais Raoul, quel malheur t'est-il arrivé ?»« Oh, le malheur qui m'arrive, répondit-il, sera le dernier, ma mère. » Madame Fauvel ne l'avait jamais vu ainsi. Elle se leva émue, palpitante, et vint se placer près de lui, son visage touchant presque le sien, comme si en le fixant de toutes les forces de sa volonté, elle eût pu lire jusqu'au fond de son âme. « Mais qu'y a-t-il » insista-t-elle. « Raoul, mon fils, réponds-moi. » Il la repoussa doucement. « Oh, ce qu'il y a, » répondit-il d'une voix étouffée, et qui cependant faisait vibrer les entrailles de Madame Fauvel. « Il y a, ma mère, que je suis indigne de toi, indigne de mon noble et généreux père. » Elle fit un signe de tête comme pour essayer de protester. « Oh » continua-t-il, « je me connais, je me juge. Personne ne saurait me reprocher l'infamie de ma conduite aussi cruellement que me le reproche ma conscience. Je n'étais pas né mauvais, cependant, je ne suis qu'un misérable fou. Il y a des heures où, frappé de vertige, je ne sais plus ce que je fais. Ah, je ne serais pas ainsi, ma mère, si je t'avais eu près de moi dans mon enfance. Mais élevé parmi des étrangers et livré à moi-même, sans autre conseiller que mes instincts, je me suis abandonné sans lutte à toutes mes passions. N'ayant rien, portant un nom volé, je suis vaniteux et dévoré d'ambition. Pauvre, sans autre ressource que tes ressources et tes secours, j'ai les goûts et les vices des filles de millionnaires. Hélas, quand je t'ai retrouvé, le mal était fait. Ton affection, tes maternelles tendresses, qui m'ont donné mes seuls jours de bonheur vrai ici-bas, n'ont pas pu m'arrêter. Moi qui ai tant souffert, moi qui ai enduré tant de privations, qui ai manqué de pain, j'ai été affolé par le luxe, si nouveau pour moi, que tu me donnais. Je me suis rué sur les plaisirs, comme l'ivrogne longtemps privé de vin, sur les liqueurs fortes. » Et Raoul s'exprimait avec l'accent d'une conviction si profonde, avec un tel entraînement, que Madame Fauvel ne songeait pas à l'interrompre. Elle écoutait, muette, terrifiée, n'osant interroger, certaine qu'elle allait apprendre quelque chose d'affreux. Lui, cependant, poursuivait. « Oui, oh, j'ai été un insensé. Le bonheur a passé près de moi et je n'ai pas su étendre la main pour le retenir. J'ai repoussé la réalité délicieuse pour me lancer à la poursuite d'un fantôme. » Moi qui aurais dû passer ma vie à tes genoux, inventer les témoignages nouveaux de reconnaissance, j'ai comme pris à tâche de te porter les coups les plus cruels, de te désoler, de te rendre la plus infortunée des créatures. Ah, j'étais un misérable quand, pour une créature que je méprisais, je jetais au vent une fortune dont chaque pièce d'or te coûtait une larme. C'est près de toi qu'était le bonheur, je le reconnais trop tard. » Il s'interrompit, comme s'il eût été accablé par le sentiment de ses torts. Il semblait près de fondre en larmes. « Mais il n'est jamais trop tard pour se repentir, mon fils, » murmura Madame Fauvel, « pour acheter ses torts. » « Ah, si je pouvais !» s'écria Raoul. « Mais non !» Il n'est plus temps. Sais-je d'ailleurs ce que dureraient mes bonnes résolutions? Ce n'est pas d'aujourd'hui que je me condamne sans pitié. Saisi de remords à chaque faute nouvelle, je me jurais de reconquérir ma propre estime, hélas. À quoi ont-ils abouti mes repentirs périodiques? À la première occasion, j'oubliais mes hontes et mes serments. Tu me crois un homme, mais je ne suis qu'un pauvre enfant, sans consistance. Je suis faible et lâche, et tu n'es pas assez forte pour dominer ma faiblesse, pour diriger ma volonté vacillante. J'ai les meilleures intentions du monde, et mes actes sont ceux d'un scélérat. Entre ma position et mes désirs, la disproportion est trop grande pour que je puisse me résigner. Qui sait d'ailleurs où me conduirait mon déplorable caractère ? Il eut un geste d'affreuse insouciance et ajouta « Mais je saurais me faire justice. » Madame Fauvel était bien trop cruellement agitée pour suivre les habiles transitions de Raoul. « Mais parle, s'écria-t-elle, explique-toi, ne suis-je pas ta mère ? Tu me dois la vérité, je puis tout entendre. » Il parut hésiter, comme s'il eût été épouvanté du coup terrible qu'il allait porter à sa mère. Enfin, d'une voix sourde, il répondit « Je suis perdu, perdu. Oui, je n'ai plus rien à attendre ni à espérer. Je suis déshonoré par ma faute, par ma très grande faute. Raoul, c'est ainsi, mais ne crains rien, ma mère. Je ne traînerai pas dans la boue le nom que tu m'as donné. J'aurai au moins le vulgaire courage de ne pas survivre à mon déshonneur. Va, ma mère, ne me plains pas. Je suis de ceux après lesquels s'acharne la destinée et qui n'ont de refuge que la mort. Je suis un être fatal. N'as-tu pas été condamné à maudire ma naissance ? Longtemps mon souvenir a hanté comme un remords tes nuits sans sommeil. Plus tard, je te retrouve et pour prix de ton dévouement, j'apporte dans ta vie un élément funeste. Mais ingrat, t'ai-je jamais fait de reproche ? Jamais. Aussi est-ce en te bénissant et ton nom chéri sur les lèvres que va mourir ton Raoul. Mourir, toi ? Mais il le faut, ma mère. L'honneur commande. Je suis condamné par des juges sans appel, ma volonté et ma conscience. » Une heure plus tôt, Madame Fauvel eut juré que Raoul lui avait fait souffrir tout ce que peut endurer une femme. Et voici que cependant, il lui apportait une douleur nouvelle, si aiguë que les autres en comparaison ne lui semblaient plus rien. « Mais qu'as-tu donc fait ? » balbutia-t-elle. « Mais on m'a confié de l'argent, j'ai joué, et je l'ai perdu. C'est donc une somme énorme. Oh non, mais ni toi ni moi ne saurions la trouver. Pauvre mère, ne t'ai-je pas tout pris ? Ne m'as-tu pas donné jusqu'à ton dernier bijou ? Mais monsieur de Clameron est riche, il a mis sa fortune à ma disposition. Bon, mais je vais faire atteler et aller le trouver. » Mais monsieur de Clameron, ma mère est absent pour 8 jours, et c'est ce soir que je dois être sauvé ou perdu. Va, j'ai songé à tout avant de me décider. Bon, tiens à la vie à 20 ans. Il sortit à demi le pistolet qu'il avait dans sa poche et ajouta avec un sourire forcé. Ben, voilà qui arrange tout. Madame Fauvel était trop hors de soi pour réfléchir à l'horreur de la conduite de Raoul, pour reconnaître dans ses horribles menaces un suprême expédient. Oubliant le passé, sans souci de l'avenir, tout entière à la situation présente, elle ne voyait qu'une chose, c'est que son fils allait mourir, se tuer, et qu'elle ne pouvait rien pour l'arracher au suicide. « Mais je veux que tu attendes, dit-elle. « André va rentrer, je lui dirai que j'ai besoin de... Combien t'avait-on confié ?»« 30 000 francs. Tu les auras demain. C'est ce soir qu'il me les faut. » Elle se sentait devenir folle, elle se tordait les mains de désespoir. « Ce soir, disait-elle, mais que n'es-tu venu plus tôt ? Manquais-tu donc de confiance en moi ? Ce soir, il n'y a plus personne à la caisse, sans cela. » Ce mot, Raoul l'attendait, Il le saisit au passage. Il eut une exclamation de joie, comme si une lueur eût éclairé les ténèbres d'un désespoir réel. « La caisse !» s'écria-t-il. « Mais tu sais où est la clé ?»« Oui, elle est là. »« Eh bien !» Il regardait Madame Fauvel avec une si infernale audace qu'elle baissa les yeux. « Donne-la-moi, mère » supplia-t-il. « Malheureux, mais c'est la vie que je te demande. » Cette prière la décida. Elle prit un des flambeaux, passa rapidement dans sa chambre, ouvrit le secrétaire et y trouva la clé de M. Fauvel. Mais au moment de la remettre à Raoul, la raison lui revint. « Oh non, balbutia-t-elle, non, non, oh non, c'est pas possible. » Il n'insista pas et même parut vouloir se retirer. « En effet, dit-il, alors, mère, un dernier baiser. » Elle l'arrêta. « Mais que feras-tu de la clé, Raoul, as-tu le mot ?»« Non, mais on peut essayer. Mais ne sais-tu pas qu'il n'y a jamais d'argent en caisse ?»« Essayons toujours. Si j'ouvre par miracle, s'il y a de l'argent en caisse, c'est que Dieu aura eu pitié de nous. » « Et si tu ne réussis pas, me jures-tu d'attendre jusqu'à demain ?»« Oui, sur la mémoire de mon père, je le jure. »« Alors, voici la clé, viens. » Pâles et tremblants, Raoul et Madame Fauvel traversèrent le cabinet du banquier et s'engagèrent dans l'étroit escalier tournant qui met en communication les appartements et les bureaux. Raoul marchait le premier, tenant la lumière, serrant entre ses doigts crispés la clé de la caisse. En ce moment, Madame Fauvel était convaincue que la tentative de Raoul serait inutile. Elle était donc presque rassurée sur les suites de cette révoltante entreprise, et elle ne redoutait guère que le désespoir de Raoul après un échec. Si elle prêtait les mains à une action dont la pensée lui paraissait affreuse, si elle avait livré la clé, c'est qu'elle se faisait à la parole de Raoul et qu'elle voulait surtout gagner du temps. Quand il aura reconnu l'inanité de ses espérances et de ses efforts, pensait-elle, il attendra, il me l'a juré, jusqu'à demain, et moi alors demain, demain. Bon, ce qu'elle ferait le lendemain, elle l'ignorait, elle ne se le demandait même pas. Mais dans les situations extrêmes, le moindre délai en espérance, comme si un court répit était le salut définitif. Ils étaient arrivés dans le bureau de Prosper, et Raoul avait placé la lampe sur une tablette assez élevée pour que, malgré l'abat-jour, elle éclairât toute la pièce. Il avait alors recouvré, sinon tout son sang-froid, au moins cette précision mécanique des mouvements, presque indépendante de la volonté, et que les hommes accoutumés au péril trouvent à leur service alors qu'il est le plus pressant. Rapidement, avec la dextérité de l'expérience, il plaça successivement les 5 boutons du coffre-fort sur les lettres composant le nom de Gypsy. L'ami intime de Prosper étant venu le voir, le chercher 50 fois à la fermeture des bureaux, Raoul savait parfaitement, pour l'avoir étudié et même essayé, c'était un garçon prévoyant, comment il fallait manœuvrer la clé dans la serrure. Il l'introduisit doucement, donna un tour, la poussa davantage, tourna une seconde fois, l'enfonça tout à fait avec une secousse et tourna encore. Il avait des battements de cœur si violents que Madame Fauvel eût pu les entendre. Le mot n'avait pas été changé. La caisse s'ouvrit. Raoul et sa mère, en même temps, laissèrent échapper un cri, elle de terreur, lui de triomphe. « Referme !» s'écria Madame Fauvel, épouvantée de ce résultat inexplicable, incompréhensible. « Laisse, laisse, reviens !» Et à moitié folle, elle se précipita sur Raoul, s'accrocha désespérément à son bras et le tira à elle avec une telle violence que la clé sortit de la serrure glissa le long de la porte du coffre et y traça une longue et profonde éraillure. Mais Raoul avait eu le temps d'apercevoir sur la tablette supérieure de la caisse trois liasses de billets de banque. Il les saisit de la main gauche et les glissa sous son paletot, entre son gilet et sa chemise. Épuisé par l'effort qu'elle venait de faire, succombant à la violence de ses émotions, Madame Fauvel avait lâché le bras de Raoul et, pour ne pas tomber, se soutenait au dossier du fauteuil de Prosper. « Grâce, Raoul, disait-elle, je t'en conjure, remets ces billets de banque dans la caisse. J'en aurai demain, je te le jure, 10 fois plus et je te les donnerai, mon fils. Je t'en prie, aie pitié de ta mère. » Il ne l'écoutait pas. Il examinait les rayures laissées sur le battant. Cette trace du vol était très visible et l'inquiétait. « Au moins, poursuivait Madame Fauvel, ne prends pas tout. Garde juste ce qu'il te faut pour te sauver et laisse le reste. »« À quoi bon, la soustraction sera-t-elle moins découverte ?»« Oui, parce que moi, vois-tu bien, j'arrangerai tout. Oh, laisse-moi faire, je saurai bien trouver une explication plausible. Je dirai à André que c'est moi qui ai eu besoin d'argent. » Avec 1000 précautions, Raoul avait refermé le coffre-fort. « Viens, dit-il à sa mère, retirons-nous. On peut nous surprendre. Un domestique peut entrer dans le salon, ne pas nous y trouver et s'étonner. » Cette cruelle indifférence, cette faculté de calcul, dans un tel moment, transportèrent Madame Fauvel d'indignation. Elle se croyait encore quelque influence sur son fils, elle croyait à la puissance de ses prières et de ses larmes. « Eh bien, répondit-elle avec tant mieux, qu'on nous surprenne et je serai contente. Alors tout sera fini. André me chassera comme une misérable, mais je ne sacrifierai pas des innocents. C'est Prosper qu'on accusera demain. Clamoran lui a pris la femme qu'il aimait et tu prétends, toi, lui voler son honneur, alors je ne veux plus. » Elle parlait très haut, d'une voix si éclatante que Raoul eut peur. Il savait qu'un garçon de bureau passait la nuit entière dans la paillasse voisine. Ce garçon, bien qu'il ne fût pas tard, pouvait fort bien être couché et tout entendre. « Remontons, » dit-il en saisissant Madame Fauvel par le bras. Mais elle se débattit. Elle s'était accrochée à une table pour mieux résister. « Oh, j'ai déjà été assez lâche pour sacrifier Madeleine, » répétait-elle. « Je ne sacrifierai pas Prosper. » Raoul comprit qu'un argument victorieux briserait seul la résolution de Madame Fauvel. Et, fit-il avec un rire cynique, « mais tu ne comprends donc pas que je suis d'accord avec Prosper et qu'il m'attend pour partager ? C'est impossible. Allons donc. Mais tu t'imagines alors que le hasard seul m'a soufflé le mot et a rempli la caisse ? Mais Prosper est honnête. Mais certainement, et moi aussi. Seulement, nous manquions d'argent. Mais tu mens. Non, chère mère. Madeleine a chassé Prosper, et dame, il se console comme il peut, ce pauvre garçon, et les consolations sont hors de prix. » Il avait repris la lampe, et doucement, mais avec une vigueur extraordinaire, il poussait Madame Fauvel vers l'escalier. Elle se laissait faire maintenant, plus confondue de ce qu'elle venait d'entendre que d'avoir vu la caisse s'ouvrir. « Quoi ? » murmurait-elle. « Prosper serait un voleur. » « Il faut remettre la clé dans la secrétaire, » dit Raoul, dès qu'ils furent dans la chambre à coucher. Mais elle ne parut pas l'entendre, et c'est lui qui replaça la clé de la caisse là où il l'avait vue prendre. Il reconduisit alors, ou plutôt il porta, Madame Fauvel dans le petit salon où elle se tenait lorsqu'il était arrivé, et il l'assit dans un fauteuil. Telle était la prostration de la malheureuse femme. Ses yeux fixes et son expression décelaient si bien le trouble affreux de son esprit que Raoul, effrayé, se demanda si elle ne devenait pas folle. « Raoul, murmurait-elle, mon fils, tu m'as tué. » Sa voix avait une douceur si pénétrante, son accent exprimait si bien le plus affreux désespoir, que Raoul, remué jusqu'au fond de l'âme, eut un bon mouvement. Il eut envie de restituer ce qu'il venait de voler, mais la pensée de Clamaran l'arrêta. Alors, voyant que Madame Fauvel restait anéantie, mourante, sur son fauteuil, tremblant de voir entrer soit Monsieur Fauvel, soit Madeleine, qui demanderait des explications, il déposa un baiser sur le front de sa mère et s'enfuit. Au restaurant, dans le cabinet où ils avaient dîné, Clamaran, torturé par l'incertitude, attendait son complice. Lors donc que Raoul parut, il se dressa brusquement, pâle d'angoisse, et c'est d'une voix à peine distincte qu'il demanda « Eh bien ?»« C'est fini, mon oncle, grâce à toi. Mais je suis maintenant le dernier des misérables. Mais sois satisfait. Voici cette somme qui va coûter l'honneur et peut-être la vie à trois personnes. » Clamaran ne releva pas l'injure. D'une main fiévreuse, il avait saisi les billets de banque, et il les maniait comme pour se bien convaincre de la réalité du succès. « Et maintenant, disait-il, Madeleine est à moi. » Raoul se taisait. Le spectacle de cette joie après les scènes de tout à l'heure le révoltait et l'humiliait. Mais Louis se méprit sur les causes de cette tristesse. « Ça a été dur ?» demanda-t-il avec un sourire. « Je te défends !» s'écria Raoul hors de soi. « Je te défends, entends-tu bien de me reparler de cette soirée? Je veux l'oublier. » À cette explosion de colère, Clamaran haussa imperceptiblement les épaules. « À ton aise !» prononça-t-il d'un ton goguenard. « Oublie, mon neveu, oublie !» !»« J'aime à croire, cependant, que tu ne refuseras pas de prendre en manière de souvenir ces 350 000 francs. » Allez, garde-les, ils sont à toi. » Cette générosité ne sembla ni surprendre ni satisfaire Raoul. « D'après nos conventions, dit-il, j'ai droit à bien davantage. » « Oh, si n'est-ce qu'un acompte. Et quand aurai-je le reste, s'il vous plaît ?»« Mais le jour de mon mariage avec Madeleine, mon beau neveu, pas avant. » Tu es un auxiliaire trop précieux pour que je songe à me priver de tes services. Et tu sais, je ne me défie pas de toi, je ne suis pas tout à fait sûr de ton affection sincère. » Raoul réfléchissait que commettre un crime et n'en tirer aucun profit serait aussi par trop niais. Venu avec l'intention de rompre avec Clamaran, il se décidait à n'abandonner la fortune de son complice que lorsqu'il n'aurait plus rien à en espérer. « Soit, fit-il, j'accepte la compte, mais plus de commissions comme celle de ce soir, alors là, je refuserai. » Clamaran eut un éclat de rire. « Bien, répondit-il, très bien, tu deviens honnête, c'est le bon moment, puisque te voici riche. Que la conscience timorée se rassure, je n'aurai plus à te demander d'insignifiant service de détail. Rentre dans la coulisse. « Mon rôle commence. » Pendant plus d'une heure après le départ de Raoul, Madame Fauvel était restée plongée dans cet état d'engourdissement voisin de l'insensibilité absolue qui suit également les grandes crises morales et de violentes douleurs physiques. Peu à peu, cependant, elle revint au sentiment de la situation présente et avec la faculté de penser, la faculté de souffrir lui revenait. Elle comprenait maintenant qu'elle avait été dupe d'une odieuse comédie. Raoul l'avait torturée de sang-froid avec préméditation, se faisant un jeu de ses souffrances, spéculant sur sa tendresse. Et Prosper avait-il, oui ou non, secondé le vol dont Raoul venait de la rendre complice? Pour Madame Fauvel, tout était là. Ce qu'elle avait su de la conduite de Prosper rendait vraisemblable l'assertion de Raoul Et toujours aveuglée, elle aimait à attribuer à un autre qu'à son fils la première idée du crime. On lui avait dit que Prosper aimait une de ces créatures qui fondent les patrimoines au feu des caprices étrangers et pervertissent les meilleures natures. Dès lors, elle pouvait se supposer capable de tout. Ne savait-elle pas par expérience où peut conduire une imprudence? Pourtant, elle excusait Prosper coupable et elle s'avouait que sur elle retombait toute responsabilité. Réfléchissant, elle ne savait quel parti prendre, se demandant si elle devait ou non se confier à Madeleine. Fatalement inspirée, elle décida que le crime de Raoul resterait son secret. Lors donc, sur les 11 heures, Madeleine revint de soirée, elle ne lui dit rien, et même parvint à dissimuler toute trace de souffrance assez habilement pour éviter les questions. Son calme ne se démentit pas lorsque rentrèrent M. Fauvel et Lucien. Et pourtant, elle venait d'être saisie de transes affreuses. L'idée pouvait venir au banquier de descendre dans son bureau, de vérifier la caisse. Cela lui était arrivé bien rarement, mais enfin, cela lui était arrivé. Comme par un fait exprès, le banquier, ce soir-là, ne parla que de Prosper, du chagrin qu'il éprouvait de le voir se déranger, des inquiétudes qu'il en ressentait et enfin des raisons qui, selon lui, l'éloignaient de la maison. Par bonheur, pendant qu'il traitait fort mal son caissier, M. Fauvel ne regarda ni sa femme ni sa nièce. Il eût été bien intrigué de leur singulière contenance. Cette nuit, pour Mme Fauvel, devait être et fut un long et intolérable supplice. Dans 6 heures, se disait-elle, dans 3 heures, dans 1 heure, tout sera découvert. Qu'arrivera-t-il? Le jour vint, la maison s'éveilla, elle entendit aller et venir les domestiques, puis le bruit des bureaux qu'on ouvrait, des employés qui arrivaient, monta jusqu'à elle. Mais quand elle voulut se lever, elle ne le put. Une invincible faiblesse et d'atroces douleurs la rejetèrent sur ses oreillers. Et c'est là, grelottant et cependant baigné des sueurs de l'angoisse, qu'elle attendit le résultat. Elle attendait, penchée sur le bord de son lit, l'oreille au guet, lorsque la porte de sa chambre s'ouvrit. Madeleine, qui venait de la quitter, reparut. L'infortunée était plus pâle qu'une morte, ses yeux avaient l'éclat du délire, elle frissonnait comme les feuilles du tremble au devant de l'orage. Madame Fauvel comprit que le crime était découvert. « Mais tu sais ce qui arrive, n'est-ce pas, ma tante ?» dit Madeleine d'une voix stridente. « On accuse Prosper d'un vol. Le commissaire est là, qui va le conduire en prison. » Un gémissement fut la seule réponse de Madame Fauvel. Bon, « je reconnais là, poursuivait la jeune fille, la main de Raoul ou du marquis. »« Mais quoi, comment t'expliquer? Oh, je l'ignore. Ce que je sais, c'est que Prosper est innocent. Je viens de le voir, de lui parler. Coupable, il n'eût pas osé lever les yeux sur moi. » Madame Fauvel ouvrait la bouche pour tout avouer, et elle n'osa. « Mais que veulent donc de nous ces monstres ?» disait Madeleine. « Mais quels sacrifices exigeront-ils ? Déshonorer Prosper, mais mieux valait l'assassiner. Je me serais tue. » L'entrée de M. Fauvel interrompit Madeleine. La fureur du banquier était telle qu'à peine il pouvait parler. « Le misérable » balbutiait-il. Osez m'accuser, moi, laissez entendre que je me suis volé, et ce marquis de Clamerand, qui semble suspecter ma bonne foi. Alors, sans prendre attention aux impressions des deux femmes, il raconta tout ce qui s'était passé. Bon, je pressentais cela hier soir, conclut-il. Voilà où mène l'inconduite. Ce jour-là, le dévouement de Madeleine pour sa tante fut mise à une rude épreuve. La généreuse fille vit traîner dans la boue l'homme qu'elle aimait. Elle croyait à son innocence comme à la sienne même. Elle pensait connaître ceux qui avaient ourdi le complot dont il était victime, et elle n'ouvrit pas la bouche pour le défendre. Cependant, Madame Fauvel devinait les soupçons de sa nièce. Elle comprit que la maladie était un indice, et bien que mourante, elle eut le courage de se lever pour le déjeuner. Ce fut un triste repas. Personne ne mangea. Les domestiques marchaient sur la pointe des pieds et parlaient bas, comme dans les maisons où il est arrivé un grand malheur. Sur les 2 heures, M. Fauvel était renfermé dans son cabinet, quand un garçon de recette vint le prévenir que le marquis de Clamart demandait à lui parler. « Quoi ? » s'écria le banquier. « Il ose ?» Mais il réfléchit et ajouta « Bon, qu'on le prie de monter. » Ce nom seul de Clamart avait suffi pour réveiller les colères mal apaisées de M. Fauvel. Victime d'un vol le matin, sa caisse se trouvant vide en face d'un remboursement, il avait pu imposer silence à son ressentiment. Mais à cette heure, il se promettait bien, il se réjouissait de prendre sa revanche. Mais le marquis ne voulait pas monter. Bientôt, le garçon de recette apparut, annonçant que cet important visiteur tenait pour des raisons majeures à parler à M. Fauvel dans ses bureaux. « Qu'est-ce que c'est que cette exigence nouvelle ?» s'écria le banquier. Et aussi irrité que possible, ne voyant nul motif de se contenir, il descendit. M. de Clamart attendait, debout dans la première pièce, celle qui précède la caisse. M. Fauvel alla droit à lui. « Mais que désirez-vous encore, monsieur ? » demanda-t-il brutalement. « On vous a payé, n'est-ce pas ? J'ai votre reçu. » À la grande surprise de tous les employés et du banquier lui-même, le marquis ne sembla ni ému ni choqué de l'apostrophe. « Vous êtes dur pour moi, monsieur, répondit-il d'un ton de déférence étudié. Sans humilité cependant, mais je l'ai mérité. C'est même pour cela que je suis venu. Un galant homme ne souffre toujours quand il s'est mis dans son tort, c'est là mon cas. Monsieur, et je suis heureux que mon passé me permette de l'avouer hautement, sans risquer d'être taxé de faiblesse. Si j'ai insisté pour vous parler ici et non dans votre cabinet, c'est qu'ayant été parfaitement inconvenant devant vos employés, c'est devant eux que je vous prie d'agréer mes excuses. » La conduite de Clamart était si inattendue, elle contrastait tellement avec ses hauteurs accoutumées, que c'est à peine si le banquier trouva au service de son étonnement quelques paroles banales. « Oui, en effet, oui, je l'avoue, vos insinuations, certains doutes. Ce matin, poursuivit le marquis, j'ai eu un moment d'excessif dépit dont je n'ai pas été le maître. Mes cheveux grisonnent, c'est vrai, mais quand je suis en colère, je suis violent et inconsidéré comme à 20 ans. Mes paroles, croyez-le, ont trahi ma pensée intime, et je les regrette amèrement. » M. Fauvel, très emporté lui-même et excellent en même temps, devait mieux que tout autre apprécier la conduite de Clamart et en être touché. D'ailleurs, une longue vie de scrupuleuse probité ne saurait être atteinte par des propos inconsidérés. Devant des explications si loyalement données, sa rancune ne tint pas. Il tendit la main à Clamart en disant « Eh bien que tout soit oublié, monsieur !» Ils s'entretinrent amicalement quelques minutes. Clamart expliqua pourquoi il avait eu un si pressant besoin de ses fonds, et en se retirant, il annonça qu'il allait faire demander à Madame Fauvel la permission de lui présenter ses hommages. « Ce sera peut-être indiscret, » fit-il avec une nuance visible d'hésitation, « après le chagrin qu'elle a dû éprouver ce matin. » « Bon, il n'y a pas d'hésitation, » répondit le banquier. Je crois même que causer un peu la distraira, et moi, je suis forcé de sortir pour cette funeste affaire. » Madame Fauvel était alors dans le petit salon où la veille Raoul l'avait menacé de se tuer. De plus en plus souffrante, elle était à demi couchée sur un canapé, et Madeleine était près d'elle. Lorsque le domestique annonça M. Louis de Clamerand, elles se dressèrent toutes deux épouvantées, comme par une effroyable apparition. Et lui avait eu le temps, montant l'escalier, de composer son visage. Presque gai, en quittant le banquier, il était maintenant grave et triste. Il salua, on lui montra un fauteuil, mais il refusa de s'asseoir. « Vous m'excuserez, mesdames, commença-t-il, d'oser troubler votre affliction, mais j'ai un devoir à remplir. » Les deux femmes se taisaient, elles paraissaient attendre une explication. Alors il ajouta, en baissant la voix, « Je sais tout !» D'un geste, Madame Fauvel essaya de l'interrompre. Elle comprenait qu'il allait révéler le secret caché à sa nièce. Mais Louis ne voulut pas voir ce geste. Il ne semblait s'occuper que de Madeleine, qui lui dit « Expliquez-vous, monsieur. » Ben, « il n'y a qu'une heure, répondit-il, que je sais comment, hier soir, Raoul, recourant aux plus infâmes violences, s'est fait livrer par sa mère la clé de la caisse et a volé 350 000 francs. » La colère et la honte empourprèrent à ces mots les joues de Madeleine. Elle se pencha sur sa tante et lui saisissant les poignets qu'elle secoua. « Est-ce vrai, cela ? » demanda-t-elle d'une voix sourde. « Est-ce vrai ?»« Hélas !» gémit Madame Fauvel anéantie. Madeleine se releva, confondue de tant d'indignes faiblesses. « Et tu as laissé accuser Prosper ? » s'écria-t-elle. « Tu le laisses déshonorer, il est en prison. »« Pardon, » murmura Madame Fauvel, « j'ai eu peur, il voulait se tuer. Puis tu ne sais pas, Prosper et lui étaient d'accord. »« Oh ! » s'écria Madeleine révoltée, « on t'a dit cela et tu as pu le croire. » Clamerand jugea le moment d'intervenir. Malheureusement, dit-il d'un air navré, madame, votre tante ne calomnie pas, monsieur Barthomy. Mais des preuves, monsieur, des preuves. Mais nous avons l'aveu de Raoul. Mais Raoul est un misérable. Je ne le sais que trop, mais enfin, qui a révélé le mot? Qui a laissé l'argent en caisse? « Monsieur Barthomy, incontestablement. » Ces objections ne parurent nullement toucher Madeleine. « Et maintenant, dit-elle, sans prendre la peine de cacher son mépris qui allait jusqu'au dégoût, savez-vous ce qu'est devenu l'argent ?» Il n'y avait pas à se méprendre au sens de cette question. Soulignée d'un regard écrasant, elle signifiait « Vous avez été l'instigateur du vol et vous êtes le receleur. » Cette sanglante injure d'une jeune fille qu'il aimait, à ce point que lui, le bandit si prudent, il risquait pour elle les produits de ses crimes, atteignit si bien Cameron qu'il devint livide. Mais son thème était trop nettement arrêté pour qu'il pût être découvert. Un jour viendra, mademoiselle, reprit-il. Vous regretterez de m'avoir traité si cruellement. La signification exacte de votre question, je l'ai comprise. Oh, ne prenez pas la peine de nier. Mais je ne nie rien, monsieur. Madeleine, murmura Madame Fauvel, qui tremblait en voyant attiser ainsi les passions mauvaises de l'homme qui tenait sa destinée entre ses mains. Madeleine, pitié. « Oui, » fit tristement Clamerand, « mademoiselle est impitoyable. Elle punit cruellement un homme d'honneur dont le seul tort est d'avoir obéi aux dernières volontés d'un frère mourant. Mais si je suis ici, cependant, c'est que je suis de ceux qui croient à la solidarité de tous les membres d'une famille. » Il sortit lentement des poches de côté de son paletot plusieurs liasses de billets de banque et les déposa sur la cheminée. « Raoul, prononça-t-il, a volé 350 000 francs. Voici cette somme. C'est plus de la moitié de ma fortune. De grand cœur, je donnerai ce qu'il me reste pour être sûr que ce crime sera le dernier. Trop inexpérimenté pour pénétrer le plan si audacieux et si simple de Clamerand, Madeleine restait interdite. Toutes ses prévisions étaient déroutées. Madame Fauvel, au contraire, accepta cette restitution comme le salut. « Merci, monsieur, » dit-elle en prenant les mains de Clamerand. « Merci, vous êtes bon. » Un rayon de la joie qu'il ressentit éclaira les yeux de Louis. Mais il triomphait trop tôt. Une minute de réflexion avait rendu à Madeleine toute sa défiance. Elle trouvait ce désintéressement trop beau pour un homme qu'elle estimait incapable d'un sentiment généreux, et l'idée lui vint qu'il devait cacher un piège. « Et que ferons-nous de cet argent ?» demanda-t-elle. « Vous le rendrez à M. Fauvel, mademoiselle ?»« Non, monsieur. Nous et comment ?»« Restituer, c'est dénoncer Raoul, c'est-à-dire perdre ma tante. » « Reprenez votre argent, monsieur. » Clamerand était bien trop fin pour insister, il obéit et sembla disposé à se retirer. « Je comprends votre refus, dit-il, à moi de trouver un moyen. Mais je ne me retirerai pas, mademoiselle, sans vous dire combien votre injustice m'a pénétré de douleur. Peut-être, après la promesse que vous m'avez daigné faire, pouvais-je espérer un autre accueil ? Je tiendrai ma promesse, monsieur, mais quand vous m'aurez donné des garanties, pas avant. Des garanties, mais lesquelles, de grâce, parlez ? Mais qui me dit qu'après mon mariage, Raoul ne viendra pas de nouveau menacer ma mère ? Que sera ma dot pour un homme qui, en 4 mois, a dissipé plus de 100 000 francs ? Nous faisons un marché, je vous donne ma main en échange de l'honneur et de la vie de ma tante. Avant de rien conclure, je dis donc, où sont vos garanties ? Oh, je vous en donnerai de telles, s'écria Clamerand, qu'il vous faudra bien reconnaître ma bonne foi. Hélas, vous doutez de mon dévouement, mais que faire pour vous le prouver ? Faut-il essayer de sauver M. Bertomy ? « Merci de votre offre, monsieur, » répondit dédaigneusement Madeleine. « Si Prosper est coupable, qu'il périsse. S'il est innocent, Dieu le protégera. » Madame Fauvel et sa nièce se levèrent, c'était un congé. Clamerand se retira. « Quel caractère, disait-il, et quelle fierté, me demander des garanties. Ah, si je ne l'aimais pas tant !» « Mais je l'aime et je veux voir cette orgueilleuse à mes pieds. Elle est si belle. Ma foi, tant pis pour Raoul. » Clamerand n'avait jamais été plus irrité. L'énergie de Madeleine, que ses calculs ne prévoyaient pas, venait de faire manquer le coup de théâtre sur lequel il avait compté et déconcerter ses savantes prévisions. Il avait trop d'expérience pour se flatter désormais d'intimider une jeune fille si résolue. Il comprenait que, sans avoir pénétré ses desseins, sans saisir le sens de ses manœuvres, elle était assez sur ses gardes pour n'être ni surprise ni trompée. De plus, il était patent qu'elle allait dominer Madame Fauvel de toute la hauteur de sa fermeté, l'animer de sa hardiesse, lui souffler ses préventions et enfin la préserver de défaillances nouvelles. Juste au moment où Louis croyait gagner en se jouant, il trouvait un adversaire. C'était une partie à recommencer. Il était clair que Madeleine était résignée à se dévouer pour sa tante Mais il était certain aussi qu'elle était déterminée à ne se sacrifier qu'à bon escient et non à tout hasard sur la foi de promesses aléatoires. Or, comment lui donner les garanties qu'elle demandait ? Quelles mesures prendre pour mettre ostensiblement et définitivement Madame Fauvel à l'abri des entreprises de Raoul ? Certes, une fois que la mort en mariée, Raoul devenu riche, Madame Fauvel ne devait plus être inquiétée. Mais comment le prouver, le démontrer à Madeleine ? La connaissance exacte de toutes les circonstances de l'ignoble et criminelle intrigue l'aurait rassuré sur ce point. Mais était-il possible de l'initier à tous les détails avant le mariage surtout ? Évidemment non. Alors quelle garantie donner ? Longtemps, Clamerand étudia la question sous toutes ses faces, s'ingéniant, épuisant toutes les forces de son esprit alerte. Il ne trouvait rien, pas une transaction possible, pas un expédient. Mais il n'était pas de ces natures hésitantes qu'un obstacle arrête des semaines entières. Quand il ne pouvait dénouer une situation, il la tranchait. Raoul le gênait. Il se jura que, de façon ou d'autre, il se débarrasserait de ce complice devenu si gênant. Pourtant, se défaire de Raoul, si défiant, si fin, n'était pas chose aisée. Mais cette considération ne pouvait faire réfléchir Clamerand. Il était aiguillonné par une de ces passions que l'âge rend terrible. Plus il était certain de la haine et du mépris de Madeleine, plus, par une inconcevable et cependant fréquente aberration de l'esprit et des sens, il l'aimait, il la désirait, il la voulait. Cependant, une lueur de raison éclairant encore son cerveau malade, il décida qu'il ne brusquerait rien. Il sentait qu'avant d'agir, il devait attendre l'issue de l'affaire de Prosper. Puis il souhaitait revoir Madame Fauvel ou Madeleine, qui, croyait-il, ne pouvait tarder à lui demander une entrevue. Sur ce dernier point, il se faisait encore illusion. Jugeant froidement et sainement les derniers actes des deux complices, Madeleine se dit que, pour le moment, il n'irait pas plus loin. Elle comprenait à cette heure que la résistance n'eût certes pas été plus désastreuse qu'une lâche soumission. Elle se résolut donc à assumer la pleine et entière responsabilité des événements, assez sûre de sa bravoure pour tenir tête à Raoul aussi bien qu'à Louis de Clamerand. Madame Fauvel résisterait, elle n'en doutait pas, mais elle se proposait d'user, d'abuser à la rigueur de son influence pour lui imposer, dans son intérêt même, une attitude plus ferme et plus digne. C'est pourquoi, après la demande de Clamerand, les deux femmes, décidées à attendre leurs adversaires, à les voir venir, ne donnèrent plus signe de vie, cachant sous une indifférence assez bien jouée le secret de leurs angoisses, elles renoncèrent à aller aux renseignements. Par M. Fauvel, elles apprirent successivement le résultat des interrogatoires de Prosper, ses dénégations obstinées, les charges qui s'élevaient contre lui, les hésitations du juge d'instruction et enfin sa mise en liberté faute de preuves suffisantes, ainsi que le spécifié à l'arrêt de non-lieu. Depuis la tentative de restitution de Clamerand, Madame Fauvel ne doutait pas de la culpabilité du caissier. Elle n'en disait mot, mais intérieurement, elle l'accusait d'avoir séduit, entraîné, poussé au crime Raoul, ce fils qu'elle ne pouvait prendre sur elle de cesser d'aimer. Madeleine, bien au contraire, était sûre de l'innocence de Prosper. Si sûre qu'ayant sûr qu'il allait être libre, elle osa demander à son oncle, sous prétexte d'une bonne œuvre, une somme de 10 000 francs, qu'elle fit parvenir à ce malheureux victime de fausses apparences et qui, d'après tout ce qu'elle avait entendu dire, devait se trouver sans ressources. Si dans la lettre qu'elle joignit à cet endroit, voire lettre découpée dans son paroissien, elle conseillait à Prosper de quitter la France, c'est qu'elle n'ignorait pas qu'en France, l'existence lui deviendrait impossible. De plus, Madeleine était alors persuadée qu'un jour ou l'autre, il lui faudrait épouser Clamaran, et elle préférait savoir loin, bien loin d'elle, l'homme qu'autrefois elle avait distingué et choisi. Et pourtant, au moment de cette générosité que désapprouvait Madame Fauvel, ces deux pauvres femmes se débattaient au milieu d'inextricables difficultés. Les fournisseurs dont Raoul avait dévoré l'argent et qui pendant longtemps avaient fait crédit insistaient pour qu'on acquittât leurs factures. D'un autre côté, Madeleine et sa tante, qui tout l'hiver s'étaient abstenues de sortir pour éviter des dépenses de toilette, allaient se trouver obligées de paraître au bal que préparaient messieurs Jean Didier, des amis intimes de monsieur Fauvel. Comment paraître à ce bal, qui pour comble de malheur était un bal travesti, et où prendre de l'argent pour les costumes? Car elles en étaient là, dans leur inexpérience des vulgaires et cependant atroces difficultés de la vie, ces femmes qui ignoraient ce qu'est la gêne, qui toujours avaient marché les mains pleines d'or. Il y avait un an qu'elle n'avait payé la couturière. Elle lui devait une certaine somme. Consentirait-elle encore à faire un crédit? Une nouvelle femme de chambre nommée Palmyre Chocareil, qui rentra au service de Madeleine, les tira d'inquiétude. Cette fille, qui semblait avoir une grande expérience des petites misères, qui sont les seules sérieuses, devina peut-être les soucis de ses maîtresses. Toujours est-il que, sans en être priée, elle indiqua une couturière très habile qui débutait, qui avait des fonds et qui serait trop heureuse de fournir tout ce qu'il faudrait et encore d'attendre pour le paiement, récompensée d'avance par cette certitude que la clientèle des dames Fauvel la ferait connaître et lui amènerait d'autres pratiques. Mais ce n'était pas tout. Ni Madame Fauvel, ni sa nièce ne pouvaient se rendre à ce bal sans un bijou. Or, toutes leurs parures, sans exception, avaient été prises et engagées au Mont-de-Piété par Raoul, qui avait gardé les reconnaissances. C'est alors que Madeleine eut l'idée d'aller demander à Raoul d'employer au moins une partie de l'argent volé à dégager les bijoux arrachés à la faiblesse de sa mère. Elle s'ouvrit de ce projet à sa tante en lui disant « Assigne un rendez-vous à Raoul. Il n'osera te refuser. Et j'irai. » Et en effet, le surlendemain, la courageuse fille prit un fiacre et malgré un temps épouvantable se rendit au Vésinet. Elle ne se doutait pas alors que M. Verduret et Prosper la suivaient et que, hissés sur une échelle, ils étaient témoins de l'entrevue. Cette tentative hardie de Madeleine fut d'ailleurs inutile. Raoul déclara qu'il avait partagé avec Prosper, que sa part lui était dissipée et qu'il se trouvait sans argent. Même il ne voulait pas rendre les reconnaissances, il fallut que Madeleine insistât énergiquement pour s'en faire donner 4 ou 5 objets indispensables et d'une valeur minime. Ce refus, Clamaran l'avait ordonné, imposé. Il espérait que, dans un moment de détresse suprême, on s'adresserait à lui. Raoul avait obéi, mais seulement après une altercation violente dont Joseph Dubois, le nouveau domestique de Clamaran, avait été témoin. C'est que les deux complices étaient alors au plus mal ensemble. Clamaran cherchait un moyen, sinon honnête, au moins peu dangereux, de se défaire de Raoul, et le jeune bandit avait comme un pressentiment des amicales intentions de son compagnon. Seule la certitude d'un grand danger pouvait les réconcilier, et cette certitude illure au bal de messieurs Jean Didier. Quel était ce mystérieux paillasse qui, après les transparentes allusions au malheur de Madame Fauvel, avait dit à Louis d'un ton si singulier « Mais je suis l'ami de votre frère Gaston. » Ils ne pouvaient le deviner, mais ils reconnurent si bien un ennemi implacable qu'au sortir du bal, ils essayèrent de le poignarder. L'ayant suivi et ayant été dépisté, ils furent épouvantés. « Prenons garde !» avait murmuré Clamerand. « Nous ne saurons que trop tôt quel est cet homme. » Raoul alors avait essayé de le décider à renoncer à Madeleine. « Non » s'était-il écrié, « non, je l'aurai ou je périrai. » Il pensait que, prévenu, il serait difficile de les prendre. Mais c'est qu'ils ignoraient quel homme était sur leurs traces.